9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous, 15e samedi de Gilets jaunes. Mais que s'est-il passé lors des premières semaines quand Emmanuel Macron restait étrangement silencieux? La journaliste Cécile Amar révèle dans Le Peuple et le Président les réflexions, les hésitations et surtout les rendez-vous manqués d'un chef d'État qui n'a rien vu venir. Chez Air France, les bonnes nouvelles volent en escadrille. Le nouveau patron du groupe, le Canadien Benjamin Smith, a réussi à gagner la confiance des salariés. Accord salariaux signé, reste à redonner confiance aux clients. C'est l'affaire d'Anne Rigaille. Première femme à diriger Air France, en poste depuis 2 mois, elle nous accorde sa première interview en direct. Au générique également de C'est arrivé cette semaine, Martin Hirsch, le directeur de l'APHP et inventeur du RSA, qui se défend d'être le meurtrier de qui que ce soit. Il répond au pamphlet de l'écrivain Édouard Louis par un autre pamphlet, Comment j'ai tué son père. Et puis le critique de cinéma Michel Simon, directeur de la revue Positif, qui publie Une vie de cinéma en ce week-end, partagée entre César et Oscar.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Le mardi 6 novembre à Verdun, après avoir répondu à Nikos Ayegas sur Europe 1 et réclamé mesure et indulgence pour son ex-collaborateur Alexandre Benalla, Emmanuel Macron arrive devant l'hôtel de ville vers midi. Il doit déjeuner avec le maire de Verdun. C'est là qu'il est interpellé par un retraité militant LR qui se plaint de son pouvoir d'achat.
Vous sentez pas le malaise en France, Clément?
Je sens le malaise. Mais ah bon, si je veux apporter une vraie réponse, je suis obligé de changer les choses.
Vous étiez trop jeune, vous n'avez pas connu mes 68. Vous étiez trop jeune.
Vous m'avez pas l'air envie de vouloir fermer 68.
Moi j'avais 16 ans, moi.
Vous m'avez pas l'air envie d'avoir fermé 68.
Méfiez-vous quand ça monte, la colère monte.
Je l'entends.
Méfiez-vous à la retombée. Sentez le malaise qui monte de Paris.
Je le sens.
Sentez-le.
Moi j'agis, cher monsieur.
Vous allez le sentir le 17 novembre. Vous allez le sentir en France.
Je le sens chaque jour.
Le gros malaise qui arrive.
Et nous, on est un transporteur.
Mais je sais.
Et nos amis les migrants là, vous allez nous envahir combien de temps?
Mais alors vous êtes.
Vous allez nous envahir combien de temps?
Vous êtes de toutes les batailles.
Bonjour Cécile Amar.
Bonjour Patrick.
Grand reporter à l'Obs, vous publiez avec votre confrère de France Inter Cyril Graziani, Le Peuple et le Président, récit inédit qui s'ouvre sur ce dialogue qui dure en réalité une dizaine de minutes, cet avertissement que le président n'entend pas. Or tout est là, 10 jours avant la première mobilisation.
Ah, tout est là. Il y a les acteurs, il y a le président. Il y a des Français en colère qui vont mettre leur gilet jaune 10 jours après. Il y a la colère parce qu'il lui parle des carburants, il lui parle des retraites. C'est un retraité
de la hausse de la CSG.
Il lui parle des migrants, c'est-à-dire qu'y compris les mauvais côtés, les passions tristes, comme on dit, des gilets jaunes. Vous les voyez, tout est là et il ne comprend rien. Oui. C'est ça qui est fascinant.
Alors,
c'est-à-dire qu'on est le 6 novembre, il n'y a pas encore eu un seul samedi de manifestation, il n'y a pas encore eu un rond-point occupé et il ne se passera rien.
Et ce retraité donne rendez-vous effectivement au président le 17 novembre, vous allez voir. Vous êtes allé pour ce livre auprès de ceux qui manifestent et notamment de celui qui a inventé le gilet jaune comme signe de protestation, Ghislain Coutard, mécanicien automobile près de Narbonne, qui lance l'idée dans une vidéo le 24 octobre, on l'a oublié.
Ben oui, on l'a oublié, mais là aussi, c'est très longtemps avant. C'est le 24 octobre, ouais. Ghislain, il est mécanicien, il travaille avec un camion, donc il est sur les routes tout le temps, et donc il a l'habitude d'avoir un gilet jaune. Et il fait une vidéo, il dit voilà, mettez un gilet jaune, rendez-vous le 17 novembre. Et ce qui nous a fascinés avec Cyril, c'est pourquoi il y a tant de temps et pourquoi il y a tant de rendez-vous manqués. Parce que le président de la République ne parlera que le 10 décembre.
Tous les rendez-vous manqués qui auraient pu peut-être désamorcer la colère ou changer le cours de l'histoire. Une cavalcade d'erreurs, comme le dit Danny Cohn-Bendit. Il y a d'abord cette main tendue de Laurent Berger, rejetée par Édouard Philippe à la télévision, alors que l'Élysée avait donné son feu vert. Enfin, tout était,
Mais là aussi, tout était prêt. C'est-à-dire que Laurent Berger nous raconte, il envoie un texto le 15 novembre au président de la République en lui disant « il faudrait peut-être qu'on se parle ». Non seulement le président de la République ne lui répond pas. Arrive le 17 novembre, donc Laurent Berger le dit publiquement, voilà, il faudrait faire un Grenelle, il faudrait discuter. Il appelle les conseillers sociaux, voilà, tous les feux sont verts, y compris Danny Cohn-Bendit le dit, lui, il a des échanges avec le président de la République. Il dit, ouais, c'est bon, on va le faire. Et puis le Premier ministre dit, bah non, en fait, on s'en fout, on ne fera pas ça.
Oui, parce qu'il n'y croit pas, parce qu'il pense
que
les manifestants n'attendent pas de grandes réunions syndicales.
Hein. Oui, et donc, premier truc, voilà, première main tendue, première main rejetée, pour le dire. Alors, effectivement, ce n'est pas la revendication des Gilets jaunes, à juste titre. Hein. Ce n'est pas vrai qu'ils voulaient un Grenelle avec des syndicats.
Mais ça aurait pu.
Ça aurait pu, mais c'est surtout parce qu'ils voulaient du pouvoir d'achat. Donc, on a des exemples dans l'histoire où ça s'est réglé comme ça.
Et il y a quelques jours plus tard, le 23 novembre, la visite qu'Emmanuel Macron aurait pu faire sur un rond-point de l'heure pour discuter avec des Gilets jaunes. Là, tout est organisé. Et puis
tout est organisé. Et puis, il n'y va pas.
Il n'y va pas non plus. Parce qu'il faut dire qu'il n'y a pas grand-chose à offrir à ce moment-là. La ligne, c'est... Alors, on ne cède pas sur la taxe carbone. Il faut rappeler ce...
Non, mais c'est ça. C'est qu'il y a un débat dans le pouvoir toutes ces semaines-là avec des gens qui disent « on ne cèdera rien » et des gens qui commencent à se dire « bon, bah, quand même, c'est des Français, ils réclament du pouvoir d'achat, ils sont en colère, ils sont partout, peut-être qu'il faut leur donner quelque chose ». Donc oui, le ministre de l'Intérieur monte dans le plus grand secret un rendez-vous sur un rond-point dans l'heure où le président de la République pourrait venir. Il n'y va pas. Et en plus, non seulement il n'y va pas, mais maintenant, parce que nous, on l'a vu, donc il a théorisé a posteriori que les Gilets jaunes, il ne fallait pas les voir de la même façon que les partis politiques, il ne faut pas les voir, que les syndicats, il ne faut pas les voir, qu'un mouvement social... Enfin voilà, il a théorisé...
Ça, c'est ce qu'il vous dit début janvier.
Non, c'est ce qu'il dit.
C'est ce qu'il vous dit début janvier, hein, ouais. Vous l'avez vu. Ouais. Donc, l'intérêt du livre, ce sont ces confidences qu'il vous a fait. Il a un peu changé depuis, hein. Avec le grand débat, il discute directement avec des gens qui sont dans la protestation.
Il discute avec des gens, mais il continue à ne pas vouloir faire une négociation syndicale, faire une négociation avec des partis. Enfin voilà, il discute et il continue surtout à ne pas voir des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'il en a vu une fois dans un débat, mais y compris nous, parce que ce n'est pas un livre sur le président, c'est un livre qui raconte cette crise des deux côtés.
Qui raconte un bras de fer.
Ouais, qui raconte un face-à-face. Les Gilets jaunes qu'on a vus, quand ils ont vu que le président de la République, le 24 janvier, en rencontrait quelques-uns dans un débat, ils nous ont tous dit, mais en fait, il s'est trompé de moi, quoi. C'est le 24 novembre qu'il fallait nous voir. C'est au mois de novembre qu'il fallait nous voir. Ça n'a... Enfin voilà, il essaye de rattraper. On a l'impression qu'il y a une espèce de course dans le temps. C'est-à-dire qu'il a perdu du temps pendant la crise, il met 3 semaines, 1 mois, et maintenant il court après.
Et il admet devant vous des erreurs, il parle aussi d'un gigantesque échec collectif, j'en prends ma part, mais j'ai encore 3 ans pour changer cela. C'est ça son espoir.
Son espoir, c'est comme tous les présidents de la République. Hein. Ça a l'air que le quinquennat dure 5 ans et qu'il pense que ses rendez-vous manqués, il peut les rattraper. Il pense que le divorce qu'on a vu, que la colère des gens... Il le dit parce qu'on lui a posé une question, qui était ce qu'on appelle une question ouverte, c'est-à-dire si vous les aviez, qu'est-ce que vous auriez à leur dire ? Et le livre finit par une espèce d'adresse qu'il leur fait, c'est ça qu'il leur dit. Il leur dit, je ne vous demande pas de m'aimer, vous avez le droit de ne pas m'aimer, mais écoutez ce que je fais.
Regardez ce que je fais
et vous verrez. C'est vous qui m'avez élu, on verra à la fin.
Merci Cécile Amar. Merci. Le peuple et le président avec Cyril Graziani, ça vient de paraître chez Michel Lafon. Dans un instant, Air France qui reprend confiance, sa nouvelle directrice Anne Rigail sera notre prochaine invitée.
Europe 1.
C'est arrivé cette semaine, on continue jusqu'à 10h avec vous, Patrick Cohen.
Ce qui est arrivé cette semaine, c'est une forme de renaissance. En mai dernier, Air France était au fond du trou, 15 jours de grève pour de meilleurs salaires, une proposition d'accord rejetée par une majorité de salariés, un patron Jean-Marc Janaillac qui prend le toboggan. 9 mois plus tard, tout semble avoir changé, les pilotes ont changé de direction syndicale, tous les accords salariaux ont été approuvés, les résultats financiers sont honorables. Le groupe a franchi la barre des 100 millions de passagers transportés l'an dernier. Il y a un nouveau pilote dans l'avion, le Canadien Benjamin Smith, et à ses côtés, une directrice d'Air France. Bonjour Anne Rigail.
Bonjour Patrick.
En poste depuis 2 mois, dans une maison où vous avez grandi, vous êtes rentré à Air Inter en 91. Il y a une forme d'état de grâce pour la direction dont vous faites partie ?
Alors il y a un dialogue qui a totalement changé, hein, puisqu'il se déroule dans des valeurs de transparence, confidentialité, respect. Et c'est cette confiance qui a permis effectivement de signer un certain nombre d'accords. Les accords sur les augmentations générales à l'automne, puis des accords catégoriels avec d'abord les personnels au sol, puis les personnels navigants commerciaux et puis les pilotes cette semaine.
Avec donc ce patron Benjamin Smith, qui n'est pas français et qui est bien mieux payé que son prédécesseur, d'où des critiques à son arrivée, elles sont oubliées dans l'entreprise.
Si vous interrogez aujourd'hui les personnels escales ou les personnels navigants, ils vous parleront plus de la capacité de dialogue de Benjamin Smith, de son attitude qui tranche.
De sa nationalité, de son salaire.
Absolument.
Pour ce qui est des résultats, vous pouvez dire merci les Néerlandais, merci KLM qui fait presque 4 fois le bénéfice d'exploitation d'Air France. Pourtant, c'est une plus petite compagnie.
Un peu plus petite, effectivement. Cela s'explique par 3 facteurs. Les grèves qui ont entamé nos résultats de 335 millions d'euros. Le fait que, KLM a entamé des réformes et réussi des réformes de simplification, d'efficacité qu'il nous faut entreprendre chez Air France. Et puis le contexte dans lequel KLM opère. On est dans un contexte de cotisation, de redevances, de taxes différents qui a un impact significatif sur le résultat.
Qu'est-ce qui ne va pas encore chez Air France? Je sais que vous allez me dire qu'il faut faire revenir les clients, mais structurellement, est-ce que vous souhaitez encore réduire les coûts, les effectifs, le réseau?
Le réseau, non. La marque Air France est le plus grand réseau international au départ de l'Europe. Donc au contraire, on continue à le faire croître. On va ouvrir Dallas et Quito. Ce qui ne va pas, c'est que peut-être on doit travailler de manière plus efficace. On doit digitaliser nos process. Donc retrouver de l'efficacité, de la simplification. Et puis effectivement, il faut qu'on retrouve une confiance de nos clients qu'on a un petit peu écorné sur l'année 2018.
On va y venir. Sur le réseau, vous m'avez cité deux destinations long courrier. Sur les courts et les moyens courriers, vous ne réduisez pas?
Alors, le marché domestique est sous une pression concurrentielle extrêmement forte entre le train et les low cost. Donc, nous n'augmentons pas l'offre. En revanche, sur le moyen courrier, on ouvre cet été 5 destinations sur l'Europe. Donc, le moyen courrier Europe se porte bien.
Alors, faire revenir les clients, comment j'ai lu que vous vouliez monter en gamme? Ça veut dire quoi?
Alors, ça veut dire trois axes. D'abord, la performance opérationnelle, ce n'est pas de la montée en gamme à proprement parler, mais c'est la première attente des clients. Ils veulent de la ponctualité, de la régularité. On a pris des mesures très claires pour cet été. Par exemple, tous les jours, on aura 2 à 3 avions long courrier en réserve pour pallier toute problématique qui pourrait entamer la capacité à délivrer ce qu'on a vendu à nos clients. Le deuxième point, c'est qu'on va simplifier notre offre. On avait un portefeuille de marques un peu compliqué. Nos clients s'en plaignaient. On avait June, on avait Hop. Finalement, la marque sur laquelle nous souhaitons investir, c'est Air France. Et donc, on va réintégrer l'activité et les personnels de June. Hop va s'appeler Air France Hop. On va changer la livrée des avions régionaux. Et donc, nos clients, ils ont un repère, c'est Air France. Et puis, on va investir dans nos produits.
Investir, alors avec quoi? Vous allez refaire des cabines
Alors on accélère notre programme de modernisation des cabines. Ça veut dire des vidéos, haute définition pour tous nos clients, plus de confort dans toutes les cabines. Et puis pour nos clients business, un attribut qu'ils attendent absolument, c'est le fait de pouvoir dormir dans l'avion avec des sièges complètement plats. Et donc on a 600 millions d'euros qu'on investit sur les 3 années à venir. On a déjà démarré. Si vous prenez un nouveau Airbus 330, vous verrez que nos cabines sont flambant neuves et très très confortables. Et on continue avec tout le reste de notre flotte long courrier d'ici à 2021.
Mais ça fait du plus d'un bout à l'autre de l'avion, pas seulement pour ceux qui sont à l'avant et qui ont payé les billets très très chers.
D'un bout à l'autre, je voyage très souvent en économie long courrier. Et le plus,
ah bon,
c'est...
Vraiment ?
Vraiment.
La directrice d'Air France voyage en économie sur les longs courriers.
Toutes mes vacances avec ma famille en économie long courrier. Donc je la connais bien et ça me permet de tester le produit dans toutes les classes, absolument.
Vous n'avez pas les GP, vous n'avez pas les billets
J'ai les GP, mais comme tous les personnels. Donc j'en profite. Et
ils ont profité à l'arrière de l'avion,
oui,
et pas à l'avant.
Oui, absolument. Bon. Et ça me permet de tester le produit. Et je peux vous garantir que les nouveaux sièges en économie sont très confortables. On a les lambert bien soutenus. Et des vidéos, on peut se faire une vraie séance de cinéma. En général, je regarde 4 films. À bord. Et donc, dans toutes les classes, on a effectivement une montée en gamme.
Bon, dernier point, j'ai entendu parler de reconnaissance faciale pour accélérer les contrôles. Ça peut se faire, à quel niveau?
Alors oui, ça se fait déjà d'ailleurs sur les contrôles frontières à Roissy. Vous avez de la biométrie faciale qui accélère le débit. Le gros intérêt de la biométrie, c'est qu'effectivement ça va plus vite. Donc les temps d'attente en aéroport, la fluidité en aéroport, elle s'améliore. Et tous les éléments de parcours vont effectivement être digitalisés.
Anne Rigaille, directrice générale d'Air France. Vous restez avec nous encore quelques minutes. Je vais vous soumettre un vrai faux sur le transport aérien.
Europe 1.
Jusqu'à 10h, vous écoutez Patrick Cohen avec C'est arrivé cette semaine sur Europe 1.
Et avec la directrice générale d'Air France, Anne Rigaille, j'ai quelques questions en forme de quiz. Anne Rigaille, est-il vrai qu'avec nos taxes, redevances et cotisations sociales, Air France paie 500 millions d'euros de plus que si la compagnie était allemande?
Oui, c'est effectivement le différentiel quand on... ajoute les différentiels de taxes, redevances de navigation et également les cotisations sociales qui sont souvent plafonnées dans les autres pays.
Est-il vrai qu'Air France, comme les autres compagnies, ne paie aucune taxe sur le kérosène?
Oui, comme toutes les autres compagnies, effectivement. Après, ce qu'il est important de dire, c'est qu'on réduit largement notre consommation de kérosène. On l'a réduit de 20% en 2020 par rapport à 2011. Oui. Et tous les nouveaux avions consomment 20% de kérosène en moins.
Mais ça, vous comprenez qu'on puisse juger ça incohérent et et discriminatoire,
alors, on participe...
compte tenu en plus du débat public
évidemment,
en cours dans le pays.
On est très conscient que l'environnement, c'est quelque chose qui préoccupe de plus en plus nos concitoyens. On fait beaucoup d'actions en la matière. Après, ce que nous voulons, c'est des accords qui soient au niveau international, de manière à ce que toutes les compagnies soient, je dirais, sur un niveau de compétition équitable.
La comparaison avec le train est sans appel, vous le savez, hein, l'avion, c'est 40 fois plus de CO2 par kilomètre parcouru et personne transportée.
Oui, je ne sais pas si on prend toute la chaîne de fabrication, si c'est effectivement ça. En tout cas, ce qui compte pour le transport aérien, c'est de... On se place dans l'accord Corsia, hein, qui est un accord international, qui prévoit une croissance neutre en carbone à partir de 2020. Et ce qu'on souhaite, c'est participer à l'évolution du transport aérien en matière d'environnement, mais avec toute l'industrie, et pas seulement sur le transport aérien français, qui, je dirais, a suffisamment déjà de taxes et de cotisations, vous l'avez dit vous-même, qui pèsent sur lui.
Est-il vrai que les A380, les avions géants d'Airbus, ont vocation à disparaître ou à être mis au rencard chez Air France ?
Airbus l'a annoncé.
Enfin, Airbus a annoncé l'arrêt de la fabrication, voilà. Pas de leur exploitation, évidemment.
Donc à terme, effectivement, les 380 ne sont plus fabriqués. Chez nous, nous avons 10 380, 5 en pleine propriété et 5 que nous louons. Nous avons décidé de descendre à 7 appareils. Et pour l'instant, effectivement, nous planifions de moderniser ces 7 appareils qui restent dans notre flotte et on les met sur les routes les plus capacitives puisque c'est un avion de plus de 500 places. Donc on ne peut pas le mettre sur toutes les routes.
Mais vous avez... C'est un avion qu'on peut considérer comme inadapté aujourd'hui, une fois l'expérience faite.
Alors, c'est un avion qui est très apprécié par nos clients pour son silence, son confort.
Oui.
La difficulté du 380, c'est qu'il n'est efficace économiquement que sur des lignes sur lesquelles on a un très très fort trafic. Donc, ça a réduit son employabilité, si je peux m'exprimer ainsi.
Transavia, votre filiale low cost, connaît une progression fulgurante, mais avec... une flotte de 34 avions seulement. Mmh. Est-il vrai que vous voudriez développer Transavia et dépasser les 40 avions au-delà de l'accord que vous avez conclu avec les pilotes ?
Alors Transavia, effectivement, c'est 25% de chiffre d'affaires en plus l'an dernier. C'est une marge opérationnelle qui est assez impressionnante à 9%. Donc Transavia a vraiment très bien performé l'an dernier. On est à 34 avions. On sera en dessous des 40 avions. On va recevoir 6 737 cette année 2019. Et c'est clair que toutes les parties prenantes, je pense, sont conscientes qu'avec cette performance-là, on a tout intérêt à faire croître cette compagnie et donc à discuter de ce niveau de 40 avions maximum.
Aujourd'hui, Air France KLM est le quatrième groupe européen de transport aérien. Est-ce que votre objectif, c'est de remonter des places dans le classement ? C'est derrière Lufthansa, IAG et j'oublie le deuxième.
Alors, notre ambition, c'est effectivement de retrouver un statut que nous avions par le passé de leader européen et clairement de faire fonctionner ce groupe de manière très efficace, très synergique, de manière à retrouver cette place de leader.
Merci Anne Rigail, directrice générale d'Air France, d'être venue ce matin.
Merci
au micro d'Europe 1. Dans un instant, le patron de l'hôpital qui ne fait pas dans la charité, Martin Hirsch, défend le RSA, son invention et réplique à l'écrivain Édouard Louis.
Europe 1.
De 9h à 10h, on vous retrouve Patrick Cohen avec C'est arrivé cette semaine.
En mai dernier, l'écrivain Édouard Louis, qui s'était fait connaître avec En finir avec Eddie Bellegueule, publiait un nouveau livre autobiographique Qui a tué mon père ? Une lettre d'amour sous forme de brûlot politique à un père détruit physiquement.
Au moment du passage du RMI au RSA, qui était, selon le gouvernement, visé à encourager le retour à l'emploi, on a en fait forcé des gens à retourner au travail, un peu comme dans le grand film de Ken Loach, Moi, Daniel Blake, où on dit à des gens qui sont en très mauvaise santé, soit vous ne retournez pas au travail, on vous coupe vos aides sociales, ou soit vous y retournez avec votre mauvaise santé et vous mourrez. Et donc c'est soit mourir parce qu'on vous enlève vos aides sociales, ou soit mourir en retournant faire un travail que votre corps ne peut plus assumer, que votre corps ne peut pas faire. Et donc c'est vrai qu'on se rend compte qu'en général, ce qu'on propose dans notre monde aux classes populaires, c'est mourir ou mourir, et il n'y a pas d'autre solution.
Édouard Louis à la grande librairie de François Bunel sur France 5, qui dans son livre citait des noms, dont le vôtre. Bonjour Martin Hirsch.
Bonjour Patrick Cohen.
Le vôtre parce que inventeur de ce RSA qui... disait-il, condamne les pauvres à mourir. Avant de voir votre réponse littéraire, qu'est-ce que vous répondez sur le fond ?
Sur le fond, je réponds que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe, mais vraiment pas du tout. Hein. Édouard Louis a un petit problème avec le réel. On a prévu d'aider ceux qui bénéficient du RSA pour revenir au travail. Et il y a un système avec des commissions quand les personnes ne respecteraient pas leur contrat, avec une procédure contradictoire, avec la possibilité d'être entendu dans ces commissions qui écoutent. Il y a des représentants des bénéficiaires. Et je n'ai pas connaissance de personnes auxquelles on ait supprimé le RSA parce qu'ils auraient refusé un travail en étant malades.
Ce qui pourtant, la règle, c'est que la prestation interdit aux allocataires de refuser deux offres d'emploi valables.
Comme tous les chômeurs. Et c'était une règle extrêmement importante parce que quand j'ai créé le RSA, en discutant avec beaucoup d'allocataires du RMI, le reproche qu'ils faisaient au RMI, c'était de dire « Nous, on n'arrive même pas à s'inscrire à Pôle emploi parce qu'on ne veut pas de nous. » On nous dit « Mais formidable, vous avez le RMI, démerdez-vous. Le service public de l'emploi est fait pour les autres chômeurs, pas pour vous. » Et leur demande était inscrite dans le cadre général, comme les autres, le droit commun. Et on a accédé à cette demande pour les aider, pas pour les tuer.
Mais sur l'idée de cette forme d'obligation, ce que dit Édouard Louis et la gauche de la gauche, c'est que c'est une forme de mépris des pauvres, puisqu'on considère qu'ils ont besoin d'une incitation à travailler.
Mais non, pas du tout. C'est pas qu'ils ont une incitation à travailler, c'est qu'ils ont envie de travailler. Le mépris, il n'y a pas de mépris des pauvres, bien au contraire. C'est Édouard Louis qui a un mépris pour la réalité. L'exigence et la bienveillance, c'est la meilleure manière d'avoir des relations interhumaines. Et laisser toute partie d'une personne, moi j'appelle ça la centrifugeuse, qui laisse une partie de la population au bord d'un système qui tourne vite et on les laisse au bord sans s'en occuper, sans avoir avec eux les uns les autres dans la société, qu'on soit riche ou pauvre. Il y a effectivement un contrat de droits et de devoirs et on fait en sorte que les devoirs soient atteignables par ceux qui ont le plus de difficultés et que les devoirs soient plus forts pour ceux qui sont plus forts eux-mêmes.
Alors ça, c'est donc le fond, Martin Hirsch, l'argumentation classique, si je puis dire. Mais votre réponse à Édouard Louis dans ce livre « Comment j'ai tué son père » chez Stock. Édouard Louis, que vous ne citez jamais d'ailleurs. Enfin, vous ne citez pas son nom. En tout cas, vous dites, c'est assez drôle, il a un prénom de Premier ministre, ce qui est vrai, on en a eu quatre, hein, avec Balladur, Herriot et Daladier. Et puis un nom de roi.
Et Philippe,
oui, forcément le quatrième, l'actuel, et un endroit, là, on en a eu 18, des Louis, c'est ça, c'est comme ça que vous le citez. Hein.
Non, mais moi j'ai écrit un roman, j'ai pris le contre-pied d'Édouard Louis. Édouard Louis prétend écrire un essai alors que visiblement il fantasme et il écrit un roman. Moi, j'ai écrit un roman qui est peut-être un essai. Il y a un épilogue ou un prologue qui sont extrêmement sérieux. L'épilogue très sérieux, c'est quand je m'adresse à lui pour de vrai, je lui envoie une lettre en lui disant « mais il y a écrit telle ou telle chose qui me paraisse faux, est-ce que vous pouvez m'expliquer ?» Le type ne me répond pas. Et puis il y a un épilogue effectivement aussi sérieux où j'explique pourquoi cette idéologie portée par Édouard Louis est à mon avis dangereuse. C'est un livre d'époque, sur cette époque de la fake news. Là, je suis face à un fake livre, celui auquel je réponds. C'est l'époque des gilets jaunes, c'est l'époque de la précarité, c'est tout ça ce que j'essaie d'expliquer dans une partie romancée, où par ailleurs, j'espère que le lecteur comme moi prendra un peu de plaisir à aller à Ruchicourt que j'ai inventé, à avoir un thriller et pour savoir si finalement il va mourir ou pas, monsieur.
Oui, mais ce que vous n'avez pas inventé, c'est les gilets jaunes. Parce qu'il y en a, ils sont là à Ruchicourt, ces gilets jaunes, ces manifestants.
Les gilets jaunes existent, c'est une réalité. Cécile Lamar montrait comment ils existent en vrai. Moi, j'ai essayé de les faire naître un peu différemment. Vous n'y trouverez pas les mauvais côtés gilets jaunes dans le théâtre du rond-point que je décris. On débat extrêmement sérieusement de ce que pourrait être la démocratie différente. Voilà, on a écrit les gilets jaunes tels qu'on pourrait les aimer finalement.
Mais le vrai Martin Hirsch, il a de la sympathie pour les gilets jaunes en général et pas seulement ceux de Ruchicourt.
Non, le vrai Martin Hirsch, il a de la sympathie pour tous ceux qui essayent d'aider les gens qui ont des difficultés. Donc il y a des gilets jaunes avec difficultés qui essayent de trouver des solutions. Ça, ils attirent toute ma sympathie et toute mon action. Et puis celles et ceux qui veulent casser, être contre, etc., ils n'ont absolument pas ma sympathie du tout.
Le vrai Martin Hirsch, c'est donc l'inventeur du RSA, celui qui a consacré une partie de sa vie à lutter contre la pauvreté. Il a des idées ou des réponses pour ceux qui disent on ne s'en sort pas, on ne sait pas comment passer le 15 ou le 20 du mois, notre frigo est vide.
Ah oui, quand les réponses, on a commencé à les bâtir d'ailleurs. On a vu que le revenu de solidarité active, honni par Édouard Louis et sa bande, est quand même bien utile. Quand on augmente la prime d'activité, qui est l'enfant légitime du revenu de solidarité active, ça rapporte effectivement 100 euros de plus à des gens qui gagnent le SMIC sans augmenter le coût du travail. Moi, je travaille beaucoup aussi avec un certain nombre d'entreprises dans un cadre non lucratif à les convaincre de renoncer à leur marge sur les clients pauvres pour essayer de faire en sorte qu'on puisse faire baisser le prix des biens de la consommation. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. Moi, ce qui m'a, j'allais dire, peut-être blessé dans l'approche Édouard Louisienne, c'est effectivement de faire l'inverse, encore une fois, de la réalité. C'est-à-dire que de prétendre qu'on allait appauvrir les gens, alors que toute ma démarche a été faite à partir des courriers que j'ai reçus de milliers de personnes qui m'expliquaient leurs difficultés de fin de mois. Et j'ai essayé d'y répondre, et je le raconte dans le livre, en augmentant leurs revenus, d'une part, et en essayant de peser sur leurs prix, pour éviter, par exemple, qu'ils dépensent 48 milliards dans les jeux de hasard.
Le RSA, c'est un filet de sécurité. La question posée par les Gilets jaunes, pour l'essentiel, est celle des bas salaires, et des salaires qui, parfois même, sont au-dessus du SMIC et qui ne suffisent pas à assurer un mode de vie décent. C'est ça les réponses qu'on cherche, Martin Hirsch.
Mais bien évidemment, c'est exactement cela. Et le RSA, comme la prime d'activité, n'était pas censé s'arrêter au SMIC et dépasse le SMIC. Parce que le phénomène majeur qu'on a dans ce pays, si on prend l'une des... Mon analyse de ce qui s'est passé en France, on a passé 30 ans à détruire les emplois à faible productivité. Je le vois même à l'hôpital. À l'hôpital, avant, il y avait des petites catégories de personnel, si je puis dire. Il y en a de moins en moins. Les emplois de nettoyage, etc. En France, on a détruit ces emplois à faible productivité et on les a mis hors du marché du travail. On ne peut pas payer quelqu'un au-dessus de sa productivité. Donc si quelqu'un est peu qualifié, il aura un faible salaire, et pour il ne peut pas vivre avec ce faible salaire, il faut le compléter. Donc le livre, c'est la thèse sur ça. Essayer de comprendre qu'il n'y a pas deux catégories de personnes, certains qui vont s'en sortir uniquement avec leur revenu du travail, et d'autres qui sont condamnés à vivre de l'aide, mais qu'il faut combiner ces deux types de revenus pour aider les gens qui sont les moins qualifiés à pouvoir être dans le marché du travail, à pouvoir progresser, à pouvoir se qualifier et à pouvoir progressivement augmenter leurs revenus. Et plutôt que d'opposer les pauvres les uns par rapport aux autres, qu'ils aient un gilet jaune, vert, rouge ou noir, de faire en sorte que dans l'ensemble de la société, on puisse participer au monde du travail à la hauteur de ce qu'on peut contribuer. Donc l'idée que son mal au dos, on s'en fout et qu'on va lui demander de se pencher encore plus, est juste pas du tout ce qu'on essaye de faire.
Martin Hirsch, comment j'ai tué son père chez Stock, où vous vous inventez un double qui s'appelle Nitram, c'est-à-dire Martin à l'envers, qui accepte une mission de tueur à gage contre un père détesté, René, dans un village de l'Oise. Voilà, c'est le cœur du livre.
Oui,
c'est
va-t-il réussir à le tuer ou pas? Je crains qu'il ait un bon fond, mon double.
Oui.
Et je crois qu'il a un bon fond, pas un double fond, mais il a un bon fond.
Et qu'on inverse la relation assassin-victime.
Peut-être.
Peut-être bien, je spoil. Merci Martin Hirsch.
Europe 1.
Dans un instant, une vie de cinéma. Michel Simon, l'homme de la revue Positif, l'admirateur de Kubrick, de Lozay, de Kazan, de tant d'autres, sera avec nous au lendemain des Césars et à la veille des Oscars.
Europe 1.
C'est arrivé cette semaine, c'est jusqu'à 10h avec vous, Patrick Cohen.
Bonjour Michel Simon.
Bonjour Patrick Cohen.
Voilà plus d'un demi-siècle que vous nous faites partager votre passion pour le cinéma, vos analyses critiques. En écrivant cette interview, je me disais au fond que je vous devais cette invitation, tellement vos articles, vos interventions, vos émissions de radio ont forgé ma cinéphilie, celle de beaucoup d'autres évidemment, ont alimenté notre curiosité, notre intérêt pour les cinémas du monde entier, et pas seulement français et anglo-saxons. C'est la marque de Positif, la revue que vous dirigez, enfin que vous dirigez sans la diriger, il n'y a toujours
que
pas de rédacteur en chef.
Que j'anime, il n'y a pas de rédacteur en chef, tout voilà. Est démocratique.
Et on retrouve donc cette curiosité, cet éclectisme dans ce recueil de textes, de critiques, d'hommages et d'interviews qui paraît chez Gallimard, une vie de cinéma, où le sentiment qui domine, en tout cas le sentiment que j'ai eu en feuilletant, en parcourant tous ces textes, c'est l'admiration. Et notamment pour les metteurs en scène. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un critique qui admire davantage qu'il ne critique ?
Non, parce que j'ai bien sûr été très franc dans mes désapprobations, dans mes rejets, etc. Mais j'ai voulu faire plutôt un livre, effectivement, des exercices d'admiration. Ça ne m'intéressait pas de reprendre des assassinats de gens qui sont déjà presque oubliés. Ce n'est pas la peine de les ressusciter.
Alors, je ne vais pas vous demander de critiquer le palmarès des Césars, mais de nous dire ce que vous admirez dans les films récompensés hier soir, Michel Simon.
Bah écoutez, par exemple, le prix à Jacques Audiard, c'est effectivement la diversité de son œuvre, son originalité, le fait d'essayer de faire un western et de réussir un western en langue anglaise, tourné d'ailleurs en Espagne et je crois en Roumanie, mais de faire un film extrêmement convaincant qui donne pas vraiment le sentiment du tout d'être fait par un étranger. Je trouve que c'était une tentative très audacieuse et c'est réussi. Jusqu'à la garde, par exemple, c'est un film que j'ai énormément soutenu,
oui.
Qui a de été
Xavier
finalement sélectionné à Venise, où il avait déjà eu, il y a un an et demi, le prix du premier film et un autre prix d'ailleurs. Bon, moi, c'est aussi mon plaisir de découvrir. C'est-à-dire, j'ai écrit tous ces livres sur des très grands cinéastes déjà établis, mais j'ai aussi beaucoup, beaucoup, je crois, et c'est ce que ce livre essaye de montrer, défendu des premiers films, et ça, c'est ce qu'il y a de plus passionnant.
Et votre admiration, je le disais, va d'abord au réalisateur. J'ai fait allusion tout à l'heure à vos films sur et avec Kubrick, Clauzet, Kazan, Fritz Lang. Dans ce livre, vous rendez hommage à beaucoup de cinéastes, et des cinéastes français d'ailleurs, Rapneau, Sautet, René, Miller, Claude Miller. Et j'ai eu la surprise aussi de découvrir l'admiration que vous avez pour Serge Gainsbourg, le Gainsbourg cinéaste, dont les films sont... Plutôt pas très considéré
pas
aujourd'hui.
Considéré, oui,
et vous avez de l'admiration pour ces talents de mise en scène.
Oui, alors bien sûr, j'ai une admiration comme presque tout le monde pour Gainsbourg, chanteur, mais c'est vrai qu'il a fait 4 films qui sont très singuliers. Je ne dis pas que ce sont des grands films, mais ce sont des films extraordinairement personnels qui sont totalement oubliés dans les biographies de Gainsbourg. Ces entretiens, par exemple, j'ai passé 6 heures ou 8 heures rue de Verneuil. J'ai jamais connu ça dans ma vie d'intervieweur. Avec Gainsbourg, qui le matin commence à parler avec nous, très touché qu'on aime ses films à positif, parce qu'il était très cinéphile lui-même, proche des surréalistes. Et en même temps, bon, on va déjeuner, après on revient, on continue encore à parler pendant 2-3 heures, et après il traverse la rue, il va chez Eric Losfeld, qui était le grand éditeur des surréalistes. Il nous offre, à Philippe Rouillet et moi, qui avons fait l'entretien ensemble, les œuvres complètes de Picabia. Voilà, c'était sidérant. Et en même temps, je trouve que ces entretiens sont d'une incroyable personnalité, et j'étais très heureux. Évidemment, j'ai fait 1200 entretiens à France Culture en particulier, donc je n'allais pas publier 12 volumes d'entretiens. J'ai choisi parmi 4 ou 5 entretiens Gainsbourg.
Qu'est-ce qui fait, et donc on le trouve effectivement dans ce livre Une vie de cinéma, qu'est-ce qui fait un grand réalisateur? Qu'est-ce qui, sur l'écran, Michel Simon, c'est sans doute une question très compliquée, vous fait admirer la mise en scène?
Écoutez, ce que j'ai essayé de réhabiliter, pas tout seul, mais je faisais partie avec Positif de gens qui en avaient un peu assez de la réduction du cinéma, des théories, à du formalisme un peu vain. Je lisais par exemple une phrase de Todorov qui a écrit un livre également très controversé. Une conception étriquée de la littérature qui la coupe du monde dans lequel on vit s'est imposée dans l'enseignement, dans la critique et même chez nombre d'écrivains. Le lecteur, lui, cherche dans les œuvres de quoi donner sens à son existence, et c'est lui qui a raison. Alors, ce qui m'intéresse dans les films, c'est ni l'élitisme du formalisme pour un petit nombre, ni la démagogie, le populisme des films qui ont le prix au César du 4 millions d'entrées, donc c'est un film formidable puisque le peuple a aimé. Je refuse aussi bien le populisme que l'élitisme, qui sont les deux mamelles qui dominent la France intellectuelle. Et par contre, entre les deux, il y a ces grands cinéastes qui effectivement nous parlent du monde, nous parlent de nos problèmes, et en même temps dans une forme originale, c'est-à-dire de la révélation d'un style. Quand j'ai vu, par exemple, pour la première fois, un film de Nuri Bilge Ceylan, le grand cinéaste turc qui plus tard a eu la Palme d'Or, c'était un film qui s'appelait Nuages de mai au Festival de Berlin. Eh bien, j'ai été complètement saisi par un regard nouveau. Et je pense qu'à chaque fois, c'est ce qui se passe. c'est la découverte de quelqu'un qui est à la fois à l'écoute du monde, qui peut parler à chacun d'entre nous, qu'il soit turc, qu'il soit brésilien, peu importe, et en même temps dans une forme originale. C'est ça qui compte beaucoup, et ça, c'est assez rare.
Vous ne direz pas que les critiques, les savants du cinéma ont toujours raison, et vous ne direz pas non plus que le public a toujours raison. L'un des textes les plus intéressants dans la partie controverse est celui que vous avez publié au moment de la polémique sur Une chambre en ville versus L'As des As. Il faut rappeler qu'en 83, ces deux films, l'un écrasant le box-office, le film de Gérard Houry avec Belmondo, L'As des As, sort le même jour que l'un des derniers grands films de Jacques Demy, Une chambre en ville. Et il y a une pétition de critiques qui disent non, il faut défendre Une chambre en ville, oui, contre le matraquage provincial. Et vous vous dites, mais de quel droit ?
Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai refusé de signer cette pétition alors qu'elle était signée par 90 collègues en disant « n'allez pas voir L'As des As, mais allez voir Une chambre en ville ». Ça venait après la sortie du film et le désastre commercial, triste évidemment, du film de Demy. Et je leur dis « c'est idiot de dire ça parce que vous êtes en train de souligner votre impuissance ». C'est-à-dire que vous avez dit à tout le monde « allez-y » et personne n'y va. Donc vous soulignez que la critique n'a plus d'influence. Et on m'en a beaucoup voulu. J'ai un peu signalé ce déclin de la critique. La critique aujourd'hui, dans les grands Jourdeau n'est plus capable de drainer les gens vers un film. Je ne dis pas qu'elle est inutile. Moi, je défends à mort la critique. Elle doit exister. C'est le seul contrepoids par rapport à la publicité, par rapport au marketing. Donc, je défends la critique. Mais je dis que cette critique n'a plus l'influence qu'elle a eue à force de copinage, à force de snobisme, etc., où les gens se méfient. Et donc, voilà. Et je trouvais que c'était absurde de dire aux gens, c'est pas le rôle de la critique de dire n'allez pas voir tel film, de faire les censeurs, et allez voir plutôt un autre film qu'on vous a déjà recommandé et nous n'avons pas été suivis.
Et c'est pas votre rôle, dites-vous, dans ce texte, de dire ceci est un grand film. Vous dites, vous écrivez expressément, on ne peut pas le dire à l'instant, c'est la postérité qui jugera en quelque sorte.
Oui, ce que je contestais aussi, c'est que les gens disaient, si nous aurions défendu la règle du jeu, si nous avions été là en 1939, on n'en sait rien. Je veux dire, les gens qui signaient ça auraient peut-être détesté la règle du jeu. C'est facile, rétrospectivement, de dire j'aurais défendu Citizen Kane, j'aurais défendu la règle du jeu.
On ne peut pas, évidemment, dire à l'avance. Le film que vous avez le plus vu sur un écran ou en salle de votre vie, Michel Simon, vu au revu.
Peut-être l'Odyssée de l'espace de Kubrick, parce qu'il garde son mystère. On peut le voir 20 fois, on est toujours interloqué.
Et vous vous prenez à chaque vision à essayer de percer ce mystère ou il vous intrigue à chaque vision ?
Oui, j'essaye effectivement, mais en même temps, j'ai presque renoncé à percer le mystère. Mais ça me fascine, et surtout quand on le revoit sur le grand écran de Cannes en 70 mm tel qu'il a été voulu par Kubrick.
Une vie de cinéma avec une préface d'Edouard Baird, Michel Simon, recueil de textes chez Gallimard. Et je signale aussi ce long entretien avec Ntebin, c'est paru il y a 4-5 ans, hein, le cinéma en partage avec un DVD en plus, ça doit toujours se trouver, c'est chez Rivage. Merci à vous Michel Simon d'être venu nous voir sur Europe 1. C'est la fin de C'est arrivé cette semaine dans moins de 5 minutes, Mediapolis. Bonjour Olivier Duhamel.
Bonjour Patrick Cohen.
Qui avez-vous ce matin ?
Et qui était à ma droite, j'ai Vincent Trémollet-Villers, éditorialiste, directeur des débats et plein de choses au Figaro. Et ma gauche, Chloé Morin, qui est à la fois chercheuse à la Fondation Jean Jaurès et sondeuse chez Ipsos.
Parfait, excellente émission.
Vous avez raison.
Et à demain pour C'est arrivé demain, juste après 9h. Excellente journée à l'écoute d'Europe 1.